Bienvenue à tous. Je remercie Julia Foyce qui a pris les commandes de l'émission en mon absence. Et je suis ravie de vous retrouver pour une balade le nez au vent dans le futur.
Je me réveille avec un réveil radio et qui me balance toutes les horreurs qui se sont passées pendant la nuit dans le monde. Et dans le même temps que j'entends ça, il y a la cafetière qui se déclenche et une petite odeur de café qui vient combattre toute cette ignominie et ce malheur universel. Et c'est cette espèce d'équilibre entre l'odeur et tout ce que je viens d'entendre qui constitue la petite minute de bonheur relative et donc très précieuse qui me réveille chaque matin.
Il est là, tout penaud, au milieu du visage, on le remarque rarement, hein, sauf pour en dire du mal. Moi, en tout cas, je ne dis jamais de quelqu'un qu'il a un très beau nez. Et pourtant, il a tellement à nous offrir ce nez, que dis-je, ce cap, cette péninsule. Une petite minute de bonheur relatif grâce à l'odeur de café, disait à l'instant Daniel Pénac. C'est déjà énorme, mais ce n'est pas tout. Il est aussi un pilier de notre mémoire. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Une simple odeur qui convoque immédiatement un océan de souvenirs. Pour moi, c'est la laque que ma grand-mère mettait dans ses cheveux. Quand je tombe sur un salon de coiffure qui utilise la même marque, immédiatement, je la revois en train de se coiffer dans sa salle de bain quand j'étais enfant. Je vois sa boîte de bigoudis et je crois entendre sa voix. Me voilà plongée dans le passé. C'est bien la preuve que les odeurs permettent un voyage dans le temps. Alors je vous propose de faire le trajet inverse aujourd'hui. Un voyage dans le futur grâce aux odeurs. Mes invités en sont convaincus. L'odorat va changer bien des choses à l'avenir et dans des domaines aussi variés que le marketing, la médecine ou la culture. Revue de détails de l'avenir à vue de nez.
Demain la veille, l'émission qui raconte le futur avec Dorothée Barba sur France Inter.
Bonjour Annick Le Guerrer.
Bonjour.
Alors la voix est un peu enrouée, mais on va essayer de s'entendre quand même. Vous êtes une grande spécialiste des odeurs et de l'odorat, anthropologue et philosophe, auteur entre autres d'un livre intitulé « Les pouvoirs de l'odeur » chez Odile Jacob. À vos côtés, Pascal Charlier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors votre job à vous, c'est de mener le consommateur par le bout du nez. Vous êtes le directeur général de Santerre, société spécialisée dans le marketing olfactif. On va voir avec vous la place que va prendre cette activité dans les années à venir. Est-ce que vous avez, l'un et l'autre, une odeur qui vous fait voyager dans le temps également, Pascal Charlier ?
Je serais tenté d'évoquer, comme on le fait à chaque fois, la Madeleine de Proust, mm-hmm. le fameux syndrome proustien, c'est-à-dire cette senteur, comme vous l'avez fort bien décrit, qui vous permet immédiatement de vous retrouver, plonger 20 ans ou 30 ans en arrière, avec cette espèce de juxtaposition entre le sens olfactif et les images et les émotions qui en sont... directement fonction.
Mais quelle est votre odeur du passé ?
Moi, ce sont plutôt les odeurs du fourrage et des moissons telles qu'elles existaient avant, à la campagne.
Annick Le Guerrer, quelle est votre odeur de l'enfance ?
L'odeur des coquilles de noix, parce que mes parents avaient un jardin et à l'automne, les noix tombaient et ça avait une odeur très puissante que j'ai toujours en mémoire. Et sentir la gangue de la coquille de noix, ça me refait plonger dans le jardin et de revoir ce jardin et moi enfant dans le jardin.
Allez, encore un petit détour par le passé, tenez, avant de mettre le nez vraiment dans le futur avec enthousiasme. Que humait-on au XVIIIe siècle ? Voici un extrait du célèbre roman de Patrick Susskind, Le Parfum.
À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrières-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton, les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière enfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux, les courtes pointes moites et le remugle âcre des pots de chambre, les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés, leurs bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d'oignon. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais. Le paysan puait comme le prêtre, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre était comme hiver.
Un extrait du roman Le Parfum. Annick Le Guerrer, puisque les odeurs des villes et des gens ont à ce point changé, est-ce qu'il est possible d'imaginer les odeurs de demain ?
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui on vit une révolution. Pendant des siècles, l'odorat a été un sens méprisé. Il passait pour un sens animal, trop lié à la sexualité, un sens archaïque, et les scientifiques ne l'étudiaient pas. Et depuis une vingtaine d'années, il y a un renouveau complet, les scientifiques l'étudient, le marketing s'y est beaucoup intéressé, et les odeurs du futur, on les voit déjà se dessiner. Dans la vie culturelle, les expositions font appel aux odeurs.
Le cinéma également.
Le cinéma. Oui. À Tokyo, il y a des salles de cinéma qui odorisent les films. Des odeurs de sueur pendant les scènes érotiques, des odeurs de sang pendant les scènes de violence. Il y a aujourd'hui des sculpteurs qui font appel à des matériaux odorants. Et ça, ça va se développer. Et alors là aussi, où les odeurs du futur vont être très importantes, c'est dans les hôpitaux. Parce que le parfum est notre premier médicament. De l'Antiquité jusqu'à la fin du 19e siècle, on s'est soigné abondamment avec des parfums qu'on avalait, qu'on mettait sur tout le corps. Et aujourd'hui, les parfums font leur entrée à nouveau dans les hôpitaux, notamment dans les services de soins palliatifs, pour apaiser, tranquilliser les malades, et aussi auprès des incurables, pour donner à chaque malade incurable un parfum individualisé auquel il peut se raccrocher et qui le déstresse, le calme. Et ça, c'est en train de se développer. Donc les parfums rentrent dans les hôpitaux et même dans les prisons pour resocialiser les prisonniers en leur ouvrant sur le monde des fenêtres olfactives et pour qu'ils puissent sentir des odeurs qu'on ne sent pas dans les prisons.
Énormément de perspectives d'avenir, effectivement. Alors parmi les indices de ce retour en grâce de l'odorat, on peut citer la toute jeune revue Née. Née comme un nez, c'est une revue entièrement consacrée aux odeurs. Le numéro 3 vient tout juste de sortir et on y lira un dossier passionnant sur le sexe des odeurs. Y a-t-il vraiment des parfums pour les hommes et des parfums pour les femmes ? Pascal Charlier, vous êtes d'accord avec cette idée que l'odorat, c'est le sens du futur ?
Oui, je suis ça de très près depuis une vingtaine d'années et j'ai véritablement vu une évolution absolument considérable. Une maturité du marché, une maturité des décisionnaires. Et aujourd'hui, il y a deux grandes tendances qui se dessinent. La première, c'est que la plupart des points de vente et des marques veulent retrouver des critères de différenciation les unes par rapport aux autres. Tout a été essayé, toutes les règles de marketing sont identiques partout et pour se différencier, il reste à travailler sur les émotions, sur la manière dont les clients vivent le parcours et l'expérience client qu'ils ont dans une marque. Et c'est vrai que l'odorat, mais aussi la musique, bien entendu, et un certain nombre de choses jouent un rôle considérable sur le plan de l'émotion.
Alors, la société que vous dirigez, Santerre, aide les marques à trouver cette identité olfactive. Ça peut faire un peu peur, franchement, l'idée que dans le futur, tous les magasins, toutes les enseignes, toutes les entreprises auront leur parfum. C'est pas uniquement du parfum d'ambiance qui sera diffusé, d'ailleurs. C'est vraiment toute une création olfactive autour des matériaux, des barrières olfactives également.
Oui, alors c'est assez fréquemment une peur qu'on pourrait avoir dans un futur très très éloigné, mais qui est tellement loin de ce que l'on vit à l'heure actuelle que pour moi on est dans le domaine de la peur injustifiée.
Quelle est la proportion des enseignes aujourd'hui qui travaillent sur les odeurs ?
Je pense qu'aujourd'hui, même si les statistiques sont difficiles à avoir, nous devons avoir à peu près 5 ou 7% du parc de points de vente national qui est équipé. Par exemple, une marque va vous dire « je veux que les clients qui pénètrent chez moi sentent de l'élégance, du confort, du luxe ou au contraire de la sportivité ». De l'évasion, etc., qu'ils aient l'envie de revenir pour passer un moment agréable. Une fois qu'on a déterminé ces mots-clés qui sont les messages stratégiques de la marque, ensuite on les retraduit avec des notes olfactives qui sont en correspondance avec ces mots-clés.
Quelle odeur pour quel effet, par exemple ?
Alors je vais citer des choses qui sont très basiques. Chacun sait que la vanille, par exemple, évoque l'enfance, la prime enfance, donc la maternité, donc la protection et donc la réassurance. Et voilà, donc à partir d'une senteur qui est associée à un moment de la vie, il y a des itérations successives qui se mettent en place. Et donc, puisqu'on pense à la mère, on pense à la protection et on pense à la réassurance. Donc, c'est un exemple parmi d'autres.
Alors, on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais les banques peuvent en avoir une. Dans toutes les agences du Crédit Agricole en France, figurez-vous, on peut sentir un léger parfum de rhubarbe et de thé vert. C'est presque imperceptible, mais ce parfum a été choisi pour incarner la marque. Est-ce qu'il y a aussi l'idée de motiver les salariés, de les aider à se concentrer au travail avec les odeurs, Pascal Charlier ?
Alors, dans certains pays asiatiques, et en particulier au Japon, oui. La senteur est très très fréquemment utilisée pour le management et pour rythmer un certain moment de la journée. En France et dans les pays occidentaux, pour être très franc avec vous, c'est encore une pratique qui est très très peu utilisée.
Mais ça peut se développer à l'avenir ?
Je pense, mais avec beaucoup de précautions, parce que la senteur peut être considérée comme un peu intrusive dans le monde du travail, et il faut prendre d'infinies précautions.
Qui maîtrise les odeurs, maîtrise le cœur des hommes, affirmait Jean-Baptiste Grenouille dans Le Parfum, un roman qui a d'ailleurs été adapté au cinéma.
Vous voulez faire que ce cuir sente bon, n'est-ce pas, monsieur ?
Mais naturellement, et je vais y arriver.
Avec amour et psyché de monsieur Pélissier. Il est mauvais, cet amour et psyché, maître. Il y a un peu trop de romarin dedans et aussi trop de... ça et de ça.
De la bergamote. Du patchouli. Quoi d'autre ?
Ça et ça. Ça et ça.
Du storax.
Il y en a aussi.
Tu as le nez fin, c'est une évidence, jeune homme, mais je...
Mon nez connaît toutes les odeurs du monde. C'est le meilleur nez de Paris.
Non, ne m'interromps pas quand je parle. Tu es plus qu'impertinent et vaniteux. Même moi, je ne connais pas toutes les odeurs.
Let's talk of Catherine the Great. Let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. A sensitive girl, Catherine the Great, with her military might, she could defeat anyone that she liked, and she looked so bloody good on a horse, that they couldn't wait for her to invade, Catherine the Great.
The Divine Comedy. La playlist est signée Thierry Dupin. Antoine Gomez est aux manettes. L'émission est préparée par Juliette Acus et Maëlys Seguel, réalisée par Marie-Hélène Fauquet.
Nos futurs, le tien, le mien, demain la veille, sur France Inter.
Exploration olfactive du futur cette semaine avec Pascal Charlier, spécialiste de marketing olfactif, et Annick Le Guerrer, anthropologue des odeurs. On parlait à l'instant de votre activité de marketing olfactif, Pascal Charlier. Est-ce que vous êtes nombreux sur ce secteur ? C'est un marché qui explose aujourd'hui.
Oui, le marché est en train d'exploser, donc il y a effectivement une prolifération d'acteurs, de concurrents. Je pense qu'on est à peu près une dizaine d'entreprises sérieuses en France. Bon, mais comme tous les marchés qui grossissent énormément, on assiste aussi à des phénomènes de rapprochement, de regroupement et de rationalisation du marché.
Une preuve aussi que ce marché est celui du futur. Une société basée en Normandie vous propose de mettre l'être aimé en bouteille. On envoie le t-shirt de quelqu'un qu'on aime, par exemple, et la société Calin vous transforme cette odeur en parfum. Ça vous coûtera 560 €. De quoi conserver l'odeur des gens après leur mort ? Qu'est-ce que vous en pensez, Annick Le Guerrer ?
Évidemment, étant donné que l'odeur est très liée à l'émotion, sentir l'odeur d'un être qui a disparu de votre vie peut vous émouvoir intensément. En même temps, ça conserve le souvenir. Alors, si on ne peut pas passer à autre chose.
Pascal Charlier.
Oui. Bon, moi, je pense que c'est une idée qui est à la limite et aux frontières de l'émotion et des choses qui sont positives pour l'être humain.
C'est un peu glauque pour dire les choses clairement.
Oui, peut-être un peu. Oui, peut-être un peu. Et ça touche à un tabou qui est évidemment très difficile.
C'est très difficile.
Voilà, dans le futur, on a des petits flacons, en tout cas, de tous nos ancêtres.
Oui.
Dans le salon. Et si une machine pouvait remplacer notre nez?
C'est comme un enfant, finalement. Il faut lui réapprendre régulièrement les odeurs au début, de manière à ce qu'il soit bien robuste et bien sûr du type d'odeur qu'il va reconnaître. Donc là, on le remet à zéro. On a un peu de biochimie, on a de l'optique, on a de la microfluidique, on a de l'électronique et on a de l'IT, traitement informatique.
Je vous propose à présent de découvrir donc un nez artificiel créé par une société grenobloise qui s'appelle Aribal, pionnière mondiale en la matière. Notre reporter Léa Minot s'est rendue dans un salon de l'Internet des objets à Lyon, le salon Sido, pour découvrir donc ce nez baptisé Néose, avec Julien Venturini et Fanny Turlure de la société Aribal.
C'est donc l'appareil, on peut le prendre en main, un nez digital qui nous permet de détecter et d'identifier les odeurs en 30 secondes. On est sur à peu près 400 odeurs différentes détectées sur l'ensemble du champ olfactif humain. Donc tant qu'on arrive à sentir quelque chose en tant qu'humain, l'appareil peut le détecter.
Alors est-ce qu'on peut essayer? Vous avez un flacon dans la main?
Ouais, allez-y.
Donc c'est un flacon transparent et une espèce de petite glu orange à l'intérieur.
Exactement.
Je me demande ce que c'est.
Ça vous donne un indice visuel déjà. Ne mettez pas le nez trop près.
Pour les gens qui n'ont pas d'odorat, donc ça s'appelle les anosmiques, comment ça marche?
L'anosmie, ça concerne entre 2 et 5% de la population mondiale. Enfin, c'est gigantesque.
Et on perd à peu près 80% du goût si on perd l'olfaction. Et puis pour la vie de tous les jours, c'est pas très pratique. On sait pas si on sent bon ou pas. On sait pas si la brique de lait qu'on vient de ressortir du frigo et qu'on a ouvert il y a 3 jours ou une semaine, on sait pas si elle est consommable.
Voir des odeurs de gaz, s'il y a une fuite de gaz chez nous, ce qui peut être aussi très dangereux. Donc là, il y a un vrai besoin.
Mais là, il coûte 10 000 euros votre nez artificiel.
Aujourd'hui, c'est un produit en version bêta. La version industrielle sera disponible fin 2017. On serait en mesure d'avoir un capteur qui soit entre 10 et 50 euros, voire, bon, si vraiment on parle de millions, voire dizaines de millions, oui, en dessous de 10 euros.
Alors ça ressemblerait à de la colle super forte, straglue, quelque chose comme ça. On va voir si le nez artificiel, il est aussi fort que le nez humain. Moi j'en ai un là, un nez sur mon visage, à quoi ça me servirait d'en avoir un dans les mains?
De partager des odeurs, de pouvoir les enregistrer pour pouvoir commander des parfums, des bougies odorantes. En tout cas, il y aura des étapes dans cet usage plus proche du consommateur. La première étape, c'est de pouvoir mettre le capteur dans des équipements.
Par exemple le frigo, si ça sent mauvais, c'est qu'il faut le nettoyer.
Il peut y avoir effectivement un développement bactérien qui pourrait avoir une signature olfactive.
Et le four, ça pourrait nous avertir?
Exactement. Créer une alerte, voire arrêter le four lorsque le poulet ou le plat est suffisamment cuit. Et avant d'arriver à unifier ce langage pour le consommateur, il y a tout un travail avec des industriels qui ont cruellement besoin d'un capteur olfactif pour faire du contrôle qualité dans des industries typiquement agroalimentaires, cosmétiques.
Donc il y a une petite pipette au bout
qui permet de respirer l'odeur.
Il y a un smartphone qui est connecté.
Il est en train d'interroger la base de données d'odeur. La mesure se fait en une dizaine de secondes à peu près.
Floral, ce qui n'est pas exactement ça pour l'odeur de
non.
colle.
Donc là, on va lui réenregistrer l'odeur.
Résultat maintenant, ça y est.
Alors, si on revient au résultat, il a bien réussi à trouver la colle, effectivement.
Le mot colle qui est entouré d'un cercle vert, tout va bien. Est-ce qu'on peut aller dehors? Parce que là, il y a un petit peu un fond de brouhaha. Et ça gêne pas pour les odeurs, mais ça gêne pour mon audition, par contre.
Merci.
C'est le coin fumeur.
Effectivement, si on respire, on a une petite odeur de printemps sous-jacente quand même. On est dehors, les arbres sont pas très loin. Et puis, de temps en temps, vous avez une petite effluve de cigarette qui vient se superposer à ce fond.
Est-ce qu'il y a des odeurs qui sont trop complexes, qui échappent à ce nez artificiel?
Une odeur, très souvent, c'est le mélange de plusieurs molécules. une odeur de fraise, ça peut être 150 molécules différentes à l'état naturel. L'objectif pour nous, c'est pas d'aller faire de la chimie analytique où on va reconnaître la composition moléculaire de l'odeur. Ça, il y a d'autres instruments qui le font de laboratoire. Nous, on est là pour aller signer l'expérience olfactive globale. Donc finalement, une odeur, elle pourrait être complexe en termes de composition chimique et pour autant très simple à détecter pour notre équipement.
Excusez-moi, est-ce que vous auriez une cigarette, s'il vous plaît ? On va essayer de la faire reconnaître par le nez artificiel.
On ne l'a pas déclaré, hein, l'odeur de cigarette aujourd'hui dans la base de données locale de notre nez électronique. D'ailleurs, on lui a appris que la cigarette, c'était pas bon pour la santé, donc on ne le fait pas trop fumer quand même. Allons-y. Mm. Voilà.
Alors sur un écran s'affichent des tas de courbes de couleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est assez parlant, hein, vous voyez. Donc on voit bien ce nuage qui s'est déplacé au contact du nez et il est revenu juste derrière. Donc on est vraiment là dans le cas réel de la mesure de cette odeur dynamique. Donc ça, c'est assez unique.
Et est-ce qu'on va pouvoir stocker les odeurs ?
Un petit peu comme vous stockez une image au niveau digital. La réponse est oui. À partir du moment où on vient digitaliser une odeur, on va être évidemment capable de la stocker.
Et qu'est-ce que ça va changer alors dans le futur ?
L'existence d'une technologie comme ça ? Pouvoir peut-être aussi progressivement, enfin, écrire un alphabet, voire un langage des odeurs digitales qui permettent de pouvoir avoir un nez universel.
Reportage signé Léa Minot. Alors on a bien compris que le nez artificiel en est encore à ses balbutiements, mais les applications sont vraiment très importantes pour diagnostiquer certaines maladies, pour les anosmiques, ceux qui ne sentent pas les odeurs, mais aussi pour le contrôle qualité dans l'industrie cosmétique notamment. Est-ce que ça va changer notre rapport aux odeurs, ce nez artificiel, Annick Le Guerrier ?
Eh bien, ces nez artificiels sont utilisés aujourd'hui pour détecter certains cancers, comme le cancer du poumon, de la prostate. Et c'est une grande aide pour les médecins. Et ça, c'est très important, cette percée des nez artificiels dans le diagnostic. Parce qu'avant, le médecin devait être l'homme aux narines bien mouchées, comme disait Hippocrate. Et le diagnostic olfactif s'était éclipsé.
C'est vrai que les médecins ne nous reniflent pas beaucoup aujourd'hui.
Oui, alors qu'avant, ils reniflaient, ils sentaient la laine du malade, ils reniflaient ses urines. Aujourd'hui, le diagnostic olfactif a complètement chuté.
Si on peut épargner aux médecins de renifler les urines, c'est
si
pas mal en effet.
Si les nez artificiels peuvent faire ça pour détecter les maladies, ça coûtera moins cher à la sécurité sociale que de faire des analyses très très poussées.
Autre invention assez impressionnante, les téléphones diffuseurs d'odeurs. Ça existe déjà, une société japonaise a créé un diffuseur de fragrance qui est connecté au smartphone et qui permet d'envoyer par exemple un SMS à la rose. Pourquoi toujours la rose ? Un SMS au fenouil aussi, c'est sans doute possible. Je me demande si on pourrait un jour vraiment numériser les odeurs. On va poser la question à un spécialiste. Bonjour Roland Salès.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au bout du fil. Vous êtes ingénieur agronome, directeur du laboratoire de neurobiologie olfactive à l'INRA. Alors, est-ce qu'il est envisageable qu'un jour on puisse capturer une odeur et l'envoyer immédiatement à l'autre bout du monde, comme on le fait déjà pour l'image et pour le son ? Par exemple, je passe un coup de fil depuis la plage et mon interlocuteur sent l'odeur de la mer. Est-ce que ce sera possible ?
Alors, théoriquement, ça sera possible. Pour le moment, ça ne l'est pas encore. C'est-à-dire qu'il est à l'heure actuelle possible d'analyser complètement et très rapidement un effluve odorant, donc possiblement d'identifier toutes les molécules qui sont dedans, et de le reconstituer à l'autre bout du téléphone, si je puis dire.
Mais pas instantanément encore.
Le problème est jugé. Alors voilà, le problème c'est qu'actuellement c'est pas instantané, une analyse même rapide dure quelques minutes. Deuxièmement, la reconstitution est bien plus compliquée, parce que si on veut reconstituer à l'identique, il faudrait avoir un panel de centaines ou de milliers de produits chimiques différents.
Il n'y aura jamais assez de produits chimiques pour retranscrire toutes les odeurs, Roland Salès ?
Alors, à mon avis, c'est la grande limitation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un parfumeur est parfaitement capable de reproduire l'odeur d'un produit, d'une fleur, d'un arôme quelconque, avec ses propres ingrédients, faire quelque chose qui ressemble, qui peut même être quasiment identique. Mais il faut une intervention humaine pour arriver à ça.
Voilà en tout cas un champ de recherche qui est vraiment passionnant. Roland Salès, est-ce qu'on a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à comprendre sur le fonctionnement de l'odorat ?
Oui, parce que grâce à la découverte des récepteurs olfactifs, donc ces molécules qui se trouvent dans notre nez, qui sont capables de capter les molécules odorantes, donc il y a eu un très grand pas d'accompli au début des années 1990. Hein. Et puis, depuis, avec ces nouveaux outils moléculaires, on avait fait des progrès fantastiques dans la compréhension de comment le message chimique au départ des produits odorants est transformé en un message nerveux et comment le cerveau le traite. Mais on est loin encore de comprendre comment finalement un odorant donné peut déclencher, ou pas d'ailleurs, un comportement chez les animaux, voire chez les humains.
Et ça va tout changer, à votre avis, quand on aura tout compris à notre nez ?
Je pense que ça va changer sur plusieurs points. Ça va changer d'un côté sur les aspects qu'on appelle bien-être, sans parler de thérapie vraiment. Hein. C'est-à-dire que vraisemblablement, les produits odorants ont une influence sur notre morale, sur nos performances même, qui ne sont pas forcément des influences énormes, mais qui peuvent faciliter la vie d'une certaine façon. Et actuellement, il y a un fort courant, évidemment, qui tourne autour du bien-être, de l'aromathérapie, tout ça. Le problème, c'est qu'il y a très peu de recherches scientifiques dans ce domaine. Il y a beaucoup de pratiques individuelles, des praticiens qui ont une excellente maîtrise des produits odorants, qui sont capables de vous relaxer, qui sont capables de vous redonner du tonus, des choses comme ça. Mais il y a très très peu de résultats scientifiques qui viennent supporter ces données.
L'avantage de soigner par les odeurs, c'est que c'est une méthode très peu, même pas du tout invasive, hein, Roland Salès.
Voilà, c'est ça. C'est pas du tout pharmacologique, c'est-à-dire que comme à la différence d'un médicament où on est obligé d'atteindre des concentrations importantes pour avoir un résultat, cette fois avec les produits odorants, on utilise très très peu de matériel et effectivement il y en a, bon, il y a un petit peu qui va rentrer dans nos poumons, hein, mais c'est vraiment complètement négligeable.
Les effets secondaires sont limités. Voilà. Les odeurs sont très liées à nos émotions, hein, Nick Le Guérin le disait tout à l'heure. Est-ce qu'on a vraiment envie que la technologie vienne mettre son nez là-dedans, Roland Salès?
Alors oui et non.
C'est pas à vous qu'il faut demander ça en fait. Hein.
J'adopte un point de vue de chercheur. Je serais très très intéressé à comprendre comment certains produits qui sont qualifiés généralement de relaxants, je vais prendre l'exemple de la lavande par exemple, peuvent à travers l'interaction avec notre système limbique, notre système des émotions, déclencher effectivement cet effet de relaxation. Évidemment, c'est pas chez tout le monde, mais il y a beaucoup de gens chez qui ça fonctionne. Donc, on peut penser qu'avec l'odorat, on va pouvoir reconstituer aussi cette chaîne depuis l'odeur jusqu'au comportement. Encore une fois, on est loin de mener les gens par le bout du nez, parce qu'on garde toujours notre libre arbitre. Il y a quelque chose à quoi il faut penser, c'est l'éducation olfactive. Il n'y a absolument aucune éducation sensorielle en général. On l'a fait comme ça sur le tas. Mais d'éducation olfactive, il n'y a rien de rien dans la petite enfance et à l'école.
Il faudrait apprendre les odeurs à l'école.
C'est ça. Ou apprendre au moins à être attentif aux odeurs. Que ça fait partie de notre monde et qu'on peut en tirer des satisfactions non seulement culturelles, mais aussi... Ça augmente les performances intellectuelles des enfants qui ont je parle de l'éducation sensorielle en général, eh bien ça augmente leurs performances scolaires et intellectuelles quand ils ont eu dans la petite enfance une éducation sensorielle.
Incitons nos enfants à ouvrir grand leurs narines donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup Roland Salès. Je rappelle que vous êtes chercheur en neurobiologie olfactive. Annick Le Guérin.
Oui, ça commence l'éducation par les odeurs aussi chez les enfants. Notamment l'apprentissage de l'alphabet, avec la diffusion d'odeurs liées à l'image. La lettre B, par exemple, est associée à la banane, et il y a une diffusion d'odeurs de banane. Donc en même temps que les enfants apprennent l'alphabet, ils apprennent les odeurs. Et cette éducation olfactive, elle commence à se mettre en marche. Elle est très timide encore, parce que c'est coûteux, c'est toujours un problème de coût. Mais il y a quand même des aperçus qui vont dans ce sens-là.
Pascal Charlier, l'invention olfactive qui vous ferait rêver pour le futur, ce serait quoi ?
Je rejoins tout à fait le reportage que nous venons d'entendre. C'est vrai que si on arrivait demain à pouvoir véhiculer de manière instantanée les émotions qu'on est en train de vivre là, à l'instant T, à son ami, à son épouse, à quelqu'un à l'autre bout du monde, ce serait fantastique. Quoi.
Parce que pour l'instant, il faut que l'odeur ait été pré-enregistrée, donc ce n'est pas une diffusion.
Ça manque de spontanéité, et puis c'est quelque chose de tellement complexe, la recréation d'une senteur, qu'on n'a pas encore trouvé les moyens de le faire de manière spontanée. Mais il y a beaucoup d'applications qui seraient très très intéressantes. Je pense aux jeux vidéo, je pense au cinéma interactif, je pense au téléphone, bien entendu. Si si on arrivait à maîtriser la captation, l'envoi et la reconstitution instantanément, ce serait fantastique.
Nietzsche disait, c'est véridique, tout mon génie est dans mes narines. Mais on ne sait pas si le philosophe sentait bon, après tout. Dans un instant, juste après la québécoise Claude Pelgag, je reçois un homme qu'on n'a pas senti arriver. Et pourtant, il a décidé de ne plus se laver.
Les ferro fluides fleurs, au son milieu des champs magnétiques. Les ferro fluides fleurs, j'ai mon cœur des idées érotiques. Je fixe le soleil depuis longtemps. J'ai vu les avions qui sont passés devant. J'ai percé mes paupières pour regarder tout ce que je ne peux pas voir quand j'ai les yeux fermés.
Et de l'avenir avec Dorothée Barba sur France Inter.
D'abord ce chagrin qui les submerge, puis l'odorat qui disparaît. C'est ça la maladie. On l'appelle le syndrome olfactif sévère. S O S.
Il s'agit d'une pandémie d'un type tout à fait inédit vu que le mode de propagation n'a pas encore été découvert.
Ils disent que ce n'est pas contagieux. Mais qui peut croire cela ?
Extrait du film Perfect Sense avec Ewan McGregor, sorti en 2012. Est-ce que ce serait pas une vision cauchemardesque du futur, hein, la perte de l'odorat, personne qui ne sent plus rien, on a perdu le parfum de l'herbe coupée et celui du café. Annick Le Guerrer, anthropologue et philosophe, et Pascal Charlier, dirigeant de Santerre, spécialiste en marketing olfactif, sont mes invités. C'est pire que tout, non, comme scénario du futur, la fin de l'odorat, Pascal Charlier.
De mon point de vue, ce serait un scénario cataclysmique, puisque ça nous priverait, ça nous couperait instantanément de tout lien direct et inconscient avec des éléments de notre passé, quoi, relatifs à l'émotion, quoi. Donc ce serait terrifiant.
Alors vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, hein, vous aidez les marques à trouver leur signature olfactive, à trouver leur odeur, en fait, cette odeur qui définit leur identité. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a une réelle influence sur les ventes ?
Oui. Dans la mesure où on agit sur l'humeur des clients individuels qui participent à un parcours dans un point de vente, puisqu'on agit sur leur humeur, on va donc déclencher une ouverture plus positive à l'achat. Et donc, incontestablement, ça provoque ce qu'on appelle des achats d'impulsion. Alors, bien entendu, on n'achète pas une voiture à 20 000 euros parce qu'il y a une senteur agréable dans un point de vente. En revanche, on va passer plus de temps, on va avoir moins la sensation du temps qui passe, on va être d'humeur plus positive. Et ces éléments psychologiques sont très importants pour les achats d'impulsion. Et la deuxième chose, le deuxième grand impact, c'est un impact de fidélisation à une marque. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, dans un hôtel à l'autre bout du monde, un hôtel que vous avez l'habitude de fréquenter, et que vous percevez la même senteur dans cet hôtel de Singapour que dans celui de Düsseldorf et de Paris, vous n'avez plus tout à fait le sentiment d'être dans un hôtel anonyme. Vous êtes dans un territoire de proximité,
l'impression d'être chez soi
et un peu chez vous.
Est-ce que vous avez des exemples en tête de ratage complet, Pascal Charlier? Le marketing olfactif, parfois, il est totalement à côté de la plaque?
Oui, alors j'ai bien envie de prendre l'exemple du métro.
Parisien, par exemple.
On a eu par le passé des demandes de la part de la RATP pour parfumer. Alors non pas pour couvrir les nuisances olfactives qui peuvent exister de ci de là, mais pour couvrir les odeurs du métro, c'est-à-dire cette odeur de ferro d'eau lorsque les voitures arrivent dans les stations. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que les usagers étaient très très attachés à l'odeur du métro, que la couverture ou l'effacement de cette senteur était une erreur.
Donc il faut laisser,
l'ADN du métro.
Je crois que Gérard Depardieu a un message pour nous.
Je suis seul avec mon odeur, la puanteur de mon cœur, et j'en ai peur. Je pue, qui voudra mettre le nez, s'intoxiquer. Je pue, qui voudra me supporter, enfin m'aimer. C'est bien moi, le plus fou.
Eh oui, Depardieu, chanteur. C'était en 1980. Et si, dans les années à venir, les odeurs de savon et de gel douche disparaissaient? Mais surtout, est-ce qu'on pue vraiment si on arrête de se laver? Question posée par la revue Oui Demain, qui est partenaire de Demain la Veille. Bonjour Guillaume d'Alessandro.
Bonjour.
Alors c'est vous qui avez tenté cette expérience surprenante. Pas de savon, pas de douche pendant un mois. Vous avez arrêté de vous laver. On en parle également dans l'Obs de cette semaine, preuve que le sujet est en vogue. Alors il faut préciser avant toute chose que votre décision se base sur une découverte scientifique importante, le microbiome. De quoi s'agit-il ?
On est couvert de milliards et de milliards de bactéries. Plus de 100 milliards de bactéries, de virus et de champignons. Et tout ceci se met dans le film de graisse qui recouvre notre peau. Et ces organismes, en quelque sorte, vivent en symbiose. Lorsque l'on se douche, lorsque l'on se met un produit détergent sur la peau, on va bousculer l'équilibre qui se met en place entre ces bactéries, ces virus et ces champignons. Et c'est là où les mauvaises odeurs apparaissent. Ne pas se laver, ça consiste juste à laisser vivre toutes ces petits, ces milliers de petits organismes qui prolifèrent sur notre peau pour notre plus grand plaisir.
Laissez les bactéries faire leur boulot, donc abstinence savonnière, vous ne vous êtes pas lavé pendant un mois, mais vous avez changé de vêtements régulièrement et vous vous êtes frotté le corps avec une serviette. Alors, est-ce qu'on se bouchait le nez à votre passage, Guillaume d'Alessandro ?
Bien écoutez, comme j'ai continué ma cure, je n'ai pas l'impression, Dorothée, que vous êtes en train de défaillir, ni que...
Toujours pas ? Vous ne vous lavez toujours pas ?
J'ai repris le régime des grands-parents, c'est-à-dire une fois par semaine, si vous voulez, et le reste, c'est évidemment des vêtements propres. Vous savez, dans le clochard, ce qui est désagréable, c'est pas son odeur corporelle, c'est la macération de ses vêtements.
Alors, nos auditeurs se demandent sans doute si vous vous lavez les cheveux, il faut leur révéler que vous êtes chauve comme un œuf.
Et hélas, j'ai pris cette coquetterie du rasoir plutôt que du shampoing et somme toute, je ne m'en porte pas plus mal.
Et vous avez renoué, précisons-le, avec les pratiques d'hygiène de Napoléon et de Louis XIV, Annick Le Guérer, hein, c'est ça ?
Louis XIV avait peur de l'eau, il n'a pris que 2 bains dans sa vie, mais il changeait beaucoup de chemise. Voilà. Parce qu'à cette époque, on pensait que le blanc attirait la crasse et on réveillait Louis XIV la nuit pour qu'il change de chemise.
On vous laisse reposer votre voix, Annick Le Guérer. Alors, j'ai bien compris que vous ne sentiez rien, Guillaume d'Alessandro, mais la crasse, comment se débarrasser de la crasse ?
Vous avez le torchon, je peux recommander la serviette.
Donc il faut se frotter
un bout
simplement.
De tissu, tout ça est très très utile pour finalement se débarrasser de la boue et d'autres choses.
Le moment sensible de cette expérience, c'est bien sûr le rendez-vous amoureux. Aura-t-elle l'impression d'étreindre un minster bien fait ? Écrivez-vous dans le reportage. Va-t-elle joyeusement embrasser un camembert hors d'âge ? Eh bien non, votre compagne ne s'est aperçue de rien, ça paraît à peine croyable.
Au début, j'ai pensé que c'était de la duplicité féminine. Et j'étais certain que pour ne pas gâcher une relation, elle avait pris sur elle, en quelque sorte, elle s'était victimisée. Mais en fait, non. J'ai posé quelques questions perfides, j'ai essayé de contourner le problème, elle ne s'est aperçue de rien. Et c'est bien normal. Parce que si vous voulez, au bout d'une semaine, vous cessez de vous laver, n'est-ce pas, ce microbiome, cet écosystème bactérien que vous avez sur la peau, se remet à l'équilibre. Et là, ce que vous retrouvez en réalité, c'est votre odeur comme une signature olfactive. C'est-à-dire, chacun, on peut l'identifier plus ou moins, on peut le reconnaître précisément par son odeur si particulière.
Vous dites au bout d'une semaine, donc pour être très clair, vous avez pué pendant une semaine.
Non, je n'ai pas pué. J'ai été en inconfort. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que les gens qui étaient autour de moi se sont aperçus de pas grand-chose. Mais moi-même, je sentais que j'étais moins à l'aise, moins confortable, que je ressentais des odeurs qui ne m'étaient plus habituelles et qui sont revenues s'équilibrer très vite au bout de quelques jours.
Bon, il faut préciser que vous vous lavez les mains tous les jours.
Les mains, c'est absolument indispensable. Tous les médecins le disent, notamment dans les périodes d'épidémie de grippe. Il faut se laver les mains vraiment plusieurs fois par jour. Là, on n'est plus dans une question d'hygiène, dans une question d'interaction directe avec notre environnement.
Pascal Charlier, vous y croyez, vous, à l'avenir, on se passe tous de savon et on se réconcilie avec les odeurs corporelles ?
Je pense qu'il y a un mouvement mondial qui ne s'arrêtera pas de retour à des produits naturels. Ça, par contre, j'en suis absolument convaincu.
Mais l'absence de produits...
Je pense qu'on va revenir de plus en plus à l'usage de produits naturels, parce que le soin du corps et le soin de l'être sur un plan purement esthétique est également un phénomène de mode très important. En revanche, je partage parfaitement ce que monsieur disait à l'instant, c'est que l'époque n'est plus aux détergents et aux produits... agressif.
Nombreuses sont les blogueuses beauté d'ailleurs qui se passent de shampoing, c'est là aussi un phénomène assez fréquent. J'ai arrêté de me doucher, article vraiment saisissant à retrouver dans la revue Oui Demain. Le numéro 17 est en vente actuellement avec un visage de bébé à la une. Cet enfant ne vivra pas comme nous, notamment donc parce qu'il ne prendra pas de douche. Guillaume d'Alessandre, vous aussi vous y voyez une perspective d'avenir, une tendance pour le futur ?
Écoutez, moi ce que je vois, c'est que la dernière fois que j'ai regardé une étiquette de shampoing, il y avait plus de 40 produits chimiques qui étaient tous indiqués en latin pour être bien sûr que personne ne puisse les identifier, avec toute une série de produits acides. Bref, à un certain moment, quelle est la sagesse ? Est-ce que la sagesse, c'est de soit fabriquer son propre savon, soit d'arrêter de se systématiquement se doucher tous les jours par l'injonction sociale que nous fait la société ? Ou est-ce que c'est de s'asperger de produits chimiques à l'effet inconnu, aux interactions inconnues, et qui nous laissent finalement totalement démunis ? Je pense que la sagesse, c'est peut-être le gant de toilette plutôt que le shampoing chimique.
Voilà, peut-être pas arrêter de se laver, mais se laver un peu moins. Tenez comme une odeur d'adolescence à présent. Et ça sent les années 90 surtout. Smells Like Teen Spirit, Nirvana sur France Inter. Et juste après ça, je tends mon micro à un romancier comme chaque semaine pour imaginer le futur. Ce dimanche, c'est Arnaud Catherine qui invente le monde de quand on sera grand, sans crise d'adolescence de préférence. Yeah.
Demain la veille, avec Dorothée Barba. Raconte-moi le futur.
Bonjour Arnaud Catherine.
Bonjour.
À quoi ressemblera le monde quand on sera grand?
Alors, quand on sera grand, à compter qu'on ait encore à manger, qu'on ne soit pas tous détruits, qu'on n'ait pas tout détruit, quand on sera grand, moi je vois assez le monde comme il est aujourd'hui, mais dans une intensité autre. Je pense à la connaissance, par exemple, qu'on aura du cerveau et de cette plasticité qu'on devine en ce moment et qu'aura des incidences apparemment hallucinantes, des applications très inattendues. On saura réentraîner le cerveau pour que des connexions neuronales qu'on ignore aujourd'hui puissent se faire et qui ne se seraient pas fait sans cela. C'est-à-dire, on va être capable demain de tracer dans notre cerveau, de creuser des sillons, de bâtir des chemins, pourquoi pas des autoroutes, qui vont déployer nos capacités. Et c'est merveilleux d'imaginer en fait que à l'intérieur de notre tête, pour l'instant, c'est une friche avec quelques routes qu'on connaît, qui sont tracées, mais qu'il y a plein de grands travaux à faire. Les grands travaux de demain, j'adore la pyramide du Louvre, mais les grands travaux de demain, c'est dans notre tête. Les très beaux monuments, les très belles routes, ouais, elles sont à tracer dans nos cerveaux.
Le romancier et chanteur Arnaud Catherine. Je vous recommande vraiment vivement son recueil de nouvelles qui vient de sortir en livre de poche chez Folio. Pas exactement l'amour, c'est le titre de ce livre. Très beau livre. Vient de paraître également en littérature jeunesse la saison 2 de la série À la place du cœur, signé Arnaud Catherine. Et il est aussi chanteur, donc aux côtés de Florent Marchais. Le groupe Frères Animal sera en concert au Trianon à Paris le 21 avril et en tournée dans toute la France. On va apprendre, disait-il, à tracer des sillons dans nos cerveaux, à mieux exercer notre cerveau grâce au progrès des neurosciences. Est-ce qu'on va aussi apprendre à mieux se servir de notre nez à l'avenir, à votre avis, Annick Le Guerrier?
Eh bien oui, puisqu'il y a quand même une éducation olfactive qui commence à se mettre en place très timidement, mais ça va se développer. Et aussi, déjà, la police scientifique fait appel aux odeurs des criminels pour les identifier. C'est une discipline qui vient d'Europe de l'Est et qui se développe beaucoup en France en ce moment.
Que penser d'une société du tout parfumé? Est-ce qu'on va perdre le rapport également aux odeurs naturelles, aux vraies odeurs, si j'ose dire, Pascal Charlier?
Alors, c'est précisément le phénomène inverse auquel on est en train d'assister, c'est que la grande tendance des 20 prochaines années, sur laquelle on a un accès direct, c'est au contraire le retour à des matières premières brutes, à des senteurs qui tournent autour du liège, du coton, du lin, du béton.
Mais qui sont des recréations chimiques de ces odeurs.
Qui sont des recréations naturelles et chimiques de ces senteurs, revisitées bien entendu de manière contemporaine. Donc on n'est plus du tout dans la phase de composition très très complexe. On est en train de revenir à la matière brute telle qu'elle existait dans nos inconscients à tous.
En tout cas, le tout parfumé, c'est une crainte pour vous?
Oui, si on vivait dans un monde dans lequel la totalité des points de vente que nous fréquentons tous les jours sont parfumés et qu'on passe d'un environnement olfactif à un autre en 3 minutes, je pense que ça n'aurait plus de sens. Ça n'aurait plus de sens. Et effectivement, on serait dans une sorte de cacophonie olfactive qui perdrait beaucoup de son sens puisque les émotions seraient confondues et mixées les unes les autres.
Vous travaillez pour toutes sortes de marques, toutes sortes de sociétés, Pascal Charlier. Est-ce qu'il y a un exemple qui vous paraît particulièrement incarner l'avenir de cette discipline?
Je pense que l'interactivité qui existe aujourd'hui entre le consommateur et le produit qui n'est plus quelque chose d'inerte, cette interactivité qui se manifeste par des écrans, par un produit qui vit, etc., par une mise en scène, ce que les Américains appellent le staging, je pense que ça, c'est quelque chose qui se développe énormément. La théâtralisation de la vente qui passe par la mise en scène du produit, de manière olfactive, de manière musicale, de manière sonore, etc.
C'est pas très concret, là. Vous avez un exemple précis?
Par exemple, vous êtes dans un rayon de maillot de bain ou dans un rayon de surf, ok, dans une enseigne que je ne cite pas, et puis vous face aux différents produits, vous êtes sur la plage, en quelque sorte, parce que vous entendez des sons de plage, et vous sentez le monoeil, la crème à bronzer, la plage.
C'est pas un peu too much, ça, franchement?
Vous allez créer une interaction entre le produit et vous-même. Vous allez vous transposer dans l'usage final du produit tel qu'il devrait être.
Et on va acheter plein de maillots de bain.
Et vous allez vous transposer.
un parfum qui changerait d'odeur en fonction de l'heure de la journée ou de mon humeur. Est-ce que ce serait possible ça à l'avenir, Pascal Charlier ?
À nouveau, on a une contrainte technologique qui fait qu'un parfum est constitué d'un certain nombre de molécules. Il provoque une réaction et il est très très compliqué de faire, à partir de la même base, d'obtenir des résultats différents dans différentes phases de la journée. Donc on revient à la
au problème technique qui est le nœud du sujet. Annick Le Guérin.
Oui, je voulais continuer sur ce que disait Pascal. En effet, au XVIIIe siècle, tout était parfumé par les odeurs naturelles et ça sentait pas bon. Les rues étaient puantes. Aujourd'hui, on vit peut-être dans une cacophonie d'odeurs, mais cet appel aux odeurs a aussi un côté humanisant, parce que la personne qui est devant son ordinateur et qui n'a plus de contact avec le monde, si les ordinateurs sont odorisés, par exemple, lorsqu'elle se connecte sur une forêt amazonienne et qu'elle sent les orchidées sauvages, les odeurs d'orchidées, permet un recontact avec le monde. Et cet appel à l'olfactif, là, est en fait aussi une réhumanisation.
Et ça rend heureux, pour le dire simplement.
Et ça rend heureux. Mmh. Et Freud, justement, qui disait qu'il avait fallu que notre odorat soit effacé pour que la civilisation se développe, admettait que cette perte olfactive est un obstacle au bonheur. Et ce nouvel élan pris par les parfums et par les odeurs peuvent redonner du bien-être aux humains.
Et ça fait plaisir de terminer sur cette touche optimiste. Allez, toute dernière étape de l'émission, le bocal de demain la veille. Inventaire avant disparition. On met sous cloche les choses qui vont disparaître dans le futur. Chaque semaine, les invités doivent déposer quelque chose dans le bocal et c'est donc à vous de jouer. Annick Le Guérin.
Moi, je mettrais dans le bocal un mouchoir parfumé. Les mouchoirs, aujourd'hui, sont en train de disparaître complètement.
Bon, le rhume a de beaux jours devant lui, non ?
Oui, non, on prend des Kleenex.
Ah, le mouchoir en tissu.
Le vrai mouchoir de tissu. Ça, c'est un objet qui va complètement disparaître.
Une relique, donc.
Et le mouchoir parfumé, c'était aussi un artifice d'élégance porté par les femmes et par les hommes. Et ça, c'est en train de disparaître.
Guillaume D'Alessandro, que placez-vous dans le bocal ?
Je mettrai un shampoing fluo. Je pense qu'il va y avoir une intolérance qui
c'est
va
c'est
monter.
C'est son obsession, les produits d'hygiène.
Sur ces produits chimiques extrêmement complexes qu'on nous fait passer pour tout à fait inoffensifs et dont je pense qu'il y a une répulsion qui se fait de plus en plus importante vis-à-vis d'eux.
Pascal Charlier, c'est à vous.
Moi, j'ai amené avec moi un objet qui est un crayon à papier.
Il a apporté un petit bocal avec. On ouvre le bocal et c'est... C'est impressionnant, ça sent le crayon de papier.
Le crayon.
Le taille-crayon, précisément.
Taille-crayon. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un objet. Donc, il y a une valeur symbolique à ce petit objet, c'est qu'il y a un risque. Bon, ne soyons pas pessimistes, mais il y a un risque que dans une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, la senteur du taille-crayon ne signifie plus rien pour personne, car il n'y aura plus de crayon, compte tenu du développement incroyable du numérique et des autres méthodes de communication.
Mais il restera l'odeur grâce à votre petit bocal.
Il restera l'odeur si vous la conservez dans le bocal.
Ça a été compliqué à recréer ?
C'est compliqué, bien entendu. Ouais. Bien
combien d'ingrédients ?
Mais c'est beaucoup moins compliqué que certaines choses, car on parle quand même de bois. On est dans une senteur boisée, et donc les choses sont plus simples à réaliser que certaines autres choses.
Un mouchoir en tissu, du shampoing fluo et un crayon papier dans le bocal. On le referme à présent. Merci beaucoup à tous les trois. Pascal Charlier de la société Santerre, Guillaume D'Alessandro, votre récit de la vie sans savon est à lire dans la revue Oui Demain. Annick Le Guérin, je renvoie à vos différents livres sur les odeurs et notamment Les pouvoirs de l'odeur chez Odile Jacob. La semaine prochaine, si ça vous botte, on papote avec des chatbots. Les chatbots, ce sont des robots qui font la conversation, comme Siri par exemple. Quelle place vont-ils prendre dans nos vies à l'avenir ? Rendez-vous dimanche prochain 17h. Et en attendant, vous restez sur France Inter. Philippe Collin est annoncé.